Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Voici le deuxième épisode de l'histoire du pianiste Władysław Szpilman qui a inspiré le film de Roman Polanski. L'histoire donc d'un jeune pianiste polonais de 18 ans, enfermé pendant la guerre dans le ghetto de Varsovie avec toute sa famille. Histoire que je tire directement du livre qu'il a écrit juste après la guerre, édité en France par Robert Laffont et que vous trouverez désormais chez Pocket. Dans le premier épisode, Władysław fait le choix de rester à Varsovie quand les Allemands envahissent la Pologne. Il est le témoin de la construction du ghetto juif et des exactions commises dans le ghetto par les nazis. Les Allemands viennent d'annoncer la réinstallation, c'est-à-dire la déportation, des habitants du ghetto. Voici le deuxième épisode. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1. Christophe Ondelat.
Au début, la mission de rafler les habitants du ghetto est confiée au seul policier juif, dirigé par trois sous-fifres des bourreaux nazis. Et les policiers juifs, quand ils découvrent des malheureux qui se sont cachés au lieu de descendre dans la cour comme les autres, ils veulent bien fermer les yeux, mais seulement en échange d'argent. Ni les larmes, ni les supplications, ni les cris terrorisés des enfants ne leur font quoi que ce soit. Dans les jours suivants, arrivent les miliciens de Lituanie et d'Ukraine. Ils sont aussi corrompus que les policiers juifs. Comme eux, ils acceptent de l'argent. Mais eux, juste après, ils liquident celui qui vient de les soudoyer. Parce qu'ils aiment tuer. Ils aiment tuer pour le sport, pour se simplifier la tâche, pour s'exercer au tir, pour le plaisir. Ils abattent les enfants devant leur mère. Et ils jouissent après du spectacle de ces femmes rendues folles par le chagrin. Ils tirent dans le ventre de simples passants pour contempler leur atroce agonie. Et parfois, ils placent leurs victimes en ligne, ils s'écartent et ils jettent des grenades, histoire de voir qui est le plus précis. Les nazis ont trouvé une nouvelle idée. Ils l'expliquent sur des affiches qu'ils ont placardées. Toutes les familles qui se rendront de leur propre volonté sur la place pour émigrer, recevront une miche de pain et un kilo de confiture par personne. Et ils promettent que les familles ne seront pas séparées. Un grand nombre d'habitants du ghetto sautent sur cette occasion. Parce qu'ils ont faim et parce qu'ils veulent, coûte que coûte, rester avec leurs proches. Nous nous en sortons en travaillant au service des Allemands. Un ami nous trouve du travail au dépôt où le mobilier et les objets personnels des Juifs qui ont émigré est trié. On se retrouve à déplacer des meubles, des miroirs, des tapis, des draps, des vêtements. Et en échange, on nous donne un logement de fonction dans lequel nous déménageons immédiatement. Et on nous donne une demi-miche de pain et un quart de soupe par personne et par jour. Au début du mois d'août 1942, il décide d'évacuer les orphelins du ghetto.
Vous allez mettre vos plus beaux habits, les enfants. Hein? Et on va vous emmener faire une excursion à la campagne. Vous allez pouvoir sortir des murs du ghetto. Hein? Et voir des prairies en fleurs, des ruisseaux. Vous pourrez vous baigner. Et aller cueillir des champignons, hein? Et ramasser des groseilles.
Et je les vois partir. Une petite colonne, emmenée par un SS, avec le philanthrope qui s'occupait d'eux et qui a demandé à partir avec eux. Et je suis certain que plus tard au camp, quand le cyclone B commencera à attaquer leurs poumons, papy docteur, comme il l'appelait, leur a dit jusqu'au bout.
Tout va bien, les enfants. Tout ira bien. notre tour vient, le 16 août. Notre immeuble est encerclé. Coup de sifflet dans la cour. Inutile de lutter. J'ai fait ce que j'ai pu jusque-là, mais c'était une entreprise vouée à l'échec. Heureusement, seule ma sœur Alina et mon frère Henrik ne sont pas là. Alors on s'habille à la hâte. Ma mère rassemble quelques affaires dans un petit baluchon et nous nous engageons dans l'escalier. On se retrouve donc sur l'Umschlagplatz, une esplanade desservie par des voies ferrées, avec dans un coin un espace qu'on évite soigneusement, mais vers lequel nos regards ne cessent de revenir. Des cadavres alignés, ceux qui y ont été tués la veille. Des hommes surtout, mais pas seulement, il y a aussi une femme et deux petites filles avec le crâne ouvert, assassinées selon une méthode qui est chère aux nazis, tenues par les jambes, la tête projetée contre les briques. Et donc on s'installe pour attendre le train. Ma mère est assise sur son baluchon. Ma sœur Regina est accroupie près d'elle, moi debout. Et mon père fait les 100 pas, les mains dans le dos. Et des camions qui arrivent en permanence et qui déversent leur cargaison humaine. Des gens désespérés, qui sanglotent, mais qui sont vite gagnés par la chape de plomb qui règne sur cette esplanade. Je décide d'aller marcher un peu. Je croise des vieillards d'une maigreur affreuse, à bout de force, et des femmes avec leurs bébés dans les bras. « Vous auriez un peu d'eau, s'il vous plaît ? Juste quelques gouttes d'eau. » Les petits, leurs petits, ont déjà le regard mort. Quand je rejoins mes proches, ils ont de la compagnie. Une amie de ma mère et son mari et une de leurs relations, un dentiste, très en colère. En grande conversation avec mon père.
C'est une honte pour nous tous. Une honte. Nous les laissons nous conduire à la tuerie, comme des moutons à l'abattoir. Nous devrions attaquer les Allemands. Nous sommes quoi, un demi-million ici? On pourrait libérer le ghetto. En tout cas, on pourrait mourir dignement. Au lieu de laisser une page aussi honteuse dans l'histoire. Mais comment êtes-vous sûr qu'il nous envoie à la mort? J'en suis absolument certain, évidemment. Mais à mon avis, il y a 90 chances sur 100 qu'ils aient l'intention de nous liquider. Je n'en suis pas absolument certain, évidemment. Vous avez raison. Mais à mon avis, oui, je dirais qu'il y a 90 chances sur 100 qu'ils aient l'intention de nous liquider. 90 chances sur 100, oui.
Mais mon père reste convaincu que les Allemands ne sont pas assez stupides pour dilapider la force de travail que les Juifs représentent. Il pense, lui, qu'on va nous amener dans des usines, de grands chantiers, mais pas à la mort. Quelques heures plus tard, arrive une nouvelle masse d'évacués, parmi lesquels ma sœur Alina et mon frère Henrik. Quand ils ont appris qu'on avait été raflé, ils se sont portés volontaires. Mais quelle bêtise! Nous voilà donc au complet. Et les heures passent, et la foule continue de grossir, avec en bruit de fond les tirs et les hurlements de ce qu'on est en train d'arrêter. À un moment, un petit garçon arrive vers nous. Il a une boîte de bonbons accrochée autour du cou avec une ficelle. Il les vend à un prix absurde. Mais on réunit nos dernières pièces et on lui en achète un bonbon, un caramel. Mon père le coupe en 6 avec son couteau. C'est le dernier repas qu'on a pris tous ensemble. Juste après, le cordon de policiers juifs et de SS déployés autour de l'esplanade.
se met à avancer en se resserrant vers le centre et en tirant en l'air pour nous effrayer. Alors, on s'approche du train. Le train sent le chlore. Qu'est-ce qui a pu se passer là-dedans pour qu'il ait fallu le désinfecter à ce point? Et soudain...
Hé, Spielmann! Par ici, Spielmann, par ici!
Et là, quelqu'un m'attrape par le collet et me tire derrière le cordon de policiers. Je ne veux pas être séparé de ma famille. Je veux rester avec eux. Je vois mon père qui me cherche des yeux.
Papa! Papa!
Ça y est, il m'a vu. Il a fait deux pas dans ma direction. Et là, il s'arrête pâle. Et il lève la main. Et il me fait un signe d'adieu. Et là, le garde qui m'a tiré en arrière me dit
« Mais qu'est-ce que tu fiches, toi? Va-t'en! Sauve ta peau !»
Je me retourne. Je vois là-bas les rues de la ville. Et aiguillonné par une peur animale, je me mets à courir. Et au pied d'un immeuble, j'entends un SS et un policier juif dire, en montrant le train qui part au loin, le train qui emporte ma famille.
« Tiens, regarde, ils partent griller. »
Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne vais pas retourner chez nous, les SS m'abattront. Et ils me renverront au centre de sélection. Où est-ce que je vais passer la nuit? Et là, arrive un policier juif. Il s'arrête pile en face de moi.
« Vladek, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci ? »
Je le reconnais. C'est une vague relation à la moralité douteuse. Un type que jusque-là, on évitait. Je veux lui expliquer que mes parents, mes frères et mes sœurs viennent d'être emmenés par le train. Mais pas besoin. Il a compris.
« Tu sais, Vladislav, c'est peut-être mieux comme ça, non ? Le plus tôt sera le mieux. Vraiment, parce que... De toute façon, c'est ce qui nous attend tous, non ? Bon, ben, t'as qu'à venir chez nous. Ça nous remontera un peu le moral. Hein ?
J'ai accepté. Le lendemain, je vais voir le fils du nouveau président du Conseil juif. Je l'ai croisé à l'époque où je me produisais dans les cafés du ghetto.
« Dis-moi, Vladislav, j'ai une idée pour toi. Tu pourrais peut-être jouer au casino de l'unité d'extermination nazie. Tu sais, c'est un endroit où les SS et la Gestapo viennent se détendre le soir. Qu'en penses-tu ? » ?»«
Jouer pour les SS ? Et pour la Gestapo ? Ah, ce non, non. Je ne veux pas, je ne peux pas. Non !» Ça a l'air de dépasser son entendement. Alors il m'inscrit sur la liste des ouvriers qui sont chargés de démolir l'enceinte de l'ancien grand ghetto, qui est maintenant vide, puisque tout le monde a été déporté. Le quartier va être réintégré dans la ville arienne. Et donc, nous voilà partis tous les matins par colonne de quatre, pour des journées monotones en vérité. J'ai la tête ailleurs. Où est ma famille? Dans quel camp est-ce qu'on les a conduits? Quelle peut être leur existence là-bas? Un jour, là où je travaille sur ce chantier, le directeur de l'Orchestre Philharmonique de Varsovie passe et me reconnaît. Il me serre dans ses bras et il me demande naturellement des nouvelles de ma famille.
Ma famille a été déportée par le train. Dites-moi, que pensez-vous qui va leur arriver maintenant ? Vladislav ! Il vaut mieux que vous le sachiez. Vous serez sur vos gardes, au moins. Vladislav, vous ne les reverrez plus. Jamais.
Moi, jusque-là, je les imaginais en vie, confrontés à de terribles difficultés, mais vivants. Et là, il vient de faire voler en éclats l'édifice trompeur que je me suis acharné à construire.
bout d'une semaine environ, des affiches annoncent une nouvelle opération de réinstallation, de déportation. 300 000 d'entre nous sont déjà partis, il ne doit en rester que 25 000. Ce que les Allemands jugent absolument indispensable au fonctionnement local. Le premier jour, je suis sélectionné pour partir. Oh, ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis résigné. Mais le lendemain, on me dit que je peux rester. On m'accorde un sursis. Je vais vivre alors. Mais combien de temps? Nous sommes encore 60 000 à Varsovie. Je risque de partir à la prochaine opération. Je travaille toujours sur le chantier de réhabilitation de l'ancien ghetto. Et tous les jours, quand nous quittons le ghetto, il y a des juifs qui se glissent parmi nous. Ils espèrent trouver refuge dans le quartier arien. Je dois dire que peu y parviennent. Mais un samedi, je décide moi aussi de m'évader. Je suis sur le chantier. Vers 5 heures, les ouvriers non-juifs ont terminé leur journée de travail. J'enfile mon manteau. Et pour la première fois en 3 ans, je retire mon brassard à l'étoile bleue. Et je me glisse par le portail avec eux. J'ai un plan. Mon ami Boguski m'attend à l'angle d'une rue. Je le suis, le bas du visage dissimulé dans mon col relevé. Il ne faut pas que je croise un Allemand au pied d'un réverbère. Il ne faut pas qu'il aperçoive mes traits, ses mythes. Et on arrive au 10 de la rue Nowakowski. C'est là que je vais me cacher. Dans un studio d'artiste, au 5e étage, où m'attend angoissé mon amie Janina Godlewska.
Ah, Vladislav, vous êtes là enfin. Je viens de me rendre compte de la date d'aujourd'hui, Vladislav. On est 13 février. On est le 13, Vladislav. Tu as eu de la chance.
Au bout de 2 semaines, je change de cachette grâce à mon ancien supérieur, le directeur musical de la radio polonaise. Il m'installe chez un ingénieur qui habite au rez-de-chaussée du même immeuble. Et chez eux, il y a un piano.
Est-ce que vous voudriez jouer quelque chose, Vladislav?
Ça fait 7 mois que je n'ai pas joué. Mes doigts sont gourds. Ils produisent des sons qui me semblent étranges, irritants même. J'ai changé de cachette plusieurs fois. J'ai eu peur tous les jours qu'on me découvre. J'ai eu faim et j'ai dû sortir pour acheter une miche de pain que j'ai mangée par petits morceaux pendant 10 jours. Et puis le 29 juillet 1943, on a frappé à ma porte. Une clé s'est introduite dans la serrure. Un homme que je ne connaissais pas est apparu à la porte.
Ah ah ! Vous êtes toujours vivant alors ?
Et le lendemain, celui qui m'hébergeait m'a présenté un certain Salas.
Vous verrez, il est très actif dans la résistance. C'est un homme qui est digne de toute confiance. À partir de maintenant, c'est lui qui va s'occuper de vous.
Drôle d'ange gardien, en vérité. Il est venu tous les 10 jours, les mains vides.
Je n'ai pas réussi à trouver assez d'argent pour vous acheter à manger, je suis désolé.
Alors je lui ai donné des objets à vendre. Il a prétendu qu'on les lui avait volés. Il lui arrivait de disparaître 2 semaines pendant lesquelles je restais prostré sur mon lit. Épuisé par les privations, résigné à la mort. Si la Gestapo m'avait surpris à ce stade, je n'aurais même pas été capable de me pendre. Le 12 août vers midi, on frappe à ma porte. Et derrière la porte, une femme.
Ouvrez-moi immédiatement. ou j'appelle la police.
Je me dis que les habitants de l'immeuble m'ont découvert. Ils vont me livrer à la police. Alors je m'habille en hâte et j'ouvre.
Ah ! Vous vivez donc dans cet appartement ? Vous n'êtes pas recensé ? Montrez-moi votre laissez-passer.
Je n'hésite pas. Je l'écarte et je me précipite dans l'escalier.
Fermez la porte en bas ! Ne le laissez pas s'échapper !
Heureusement, le concierge n'a pas compris. Je me retrouve dans la rue et je m'éloigne en courant. Me voilà en pleine rue, avec une barbe hirsute, des cheveux qui n'ont pas été coupés depuis des mois, dans un costume tout élimé et froissé, avec mes traits sémites. Et je marche. Je marche pendant une heure dans les rues les moins fréquentées. Et je vais sonner chez un ami. Après, j'ai un mal fou à me trouver une nouvelle cachette. La Gestapo écume la ville. Elle met les nerfs de tout le monde à vif. Quand je finis par trouver, mon état de santé se dégrade. Le foie. Début décembre, les douleurs sont si virulentes, je me retiens de hurler. Mes amis parviennent à trouver un médecin.
C'est une inflammation aiguë de la vésicule biliaire. Il vous faut un régime alimentaire très strict, hein ? Très strict.
Et je reprends mon existence monotone. Je tiens à ce que ma vie soit aussi régulière que possible. Le matin, de 9 à 11, je travaille mon anglais, ensuite 2 heures de lecture, puis je prépare mon déjeuner, puis à nouveau la lecture jusqu'à la tombée de la nuit. Et les mois s'écoulent ainsi, jusqu'au 6 juin 1944. Ce jour-là, mon amie Elena apparaît chez moi, radieuse.
Vladislav, les Américains et les Britanniques ont débarqué en Normandie. Ils ont enfoncé les lignes allemandes. Ils avancent, Vladislav, ils avancent.
On apprend ensuite que la France est libérée, que l'Italie fasciste a capitulé, que l'armée rouge est massée à la frontière polonaise, qu'elle a déjà libéré Lublin. Et très vite, débutent les raids aériens soviétiques sur Varsovie, de plus en plus intenses. Je les vois de ma fenêtre. Et je vois les Allemands qui commencent à évacuer la ville. Et je me dis que je vais bientôt retrouver ma liberté. Le 29 juillet, mon ami Levitsky vient me prévenir.
Le soulèvement de Varsovie ne va pas tarder à commencer, Vladislav. On a pu acheter des armes à des soldats allemands paniqués.
Et le 1er août, vers 4 heures de l'après-midi, mes amis viennent me chercher.
Il faut que tu ailles te cacher, le plus vite possible dans la cave de l'immeuble. Le soulèvement de Varsovie est imminent. Allez, je te laisse. Adieu, Vladek. Je sais pas si on se reverra.
Le soulèvement. Je n'arrive pas à y croire. Depuis le début, combien de rumeurs ont circulé? Alors je vais me placer à mon poste d'observation, à la fenêtre. Et je vois 3 jeunes gens avec un long paquet enveloppé dans du papier journal. Je les vois consulter leur montre. Je les vois lancer un regard à la ronde. Et je vois l'un d'eux poser son genou à terre et mettre son paquet à l'épaule. Et je vois le papier journal s'enflammer et laisser apparaître une mitraillette. Ces premiers coups de feu donnent le signal à tout le quartier. Varsovie se soulève. Moi, je veux y aller, bien sûr. Je veux aller me battre avec eux. Mais je suis enfermé dans cet appartement, de l'extérieur. Le lendemain, vers midi, mon amie Madame Levitska vient me ravitailler.
Je veux y aller. Enfin, je trouverai bien un moyen de passer entre les mailles. Je veux y aller.
Écoutez, Vladislav, ça fait 1 an et demi que vous vivez enfermé entre 4 murs. Vous n'aurez pas fait la moitié du chemin, vos jambes vous lâcheront. Restez ici. Nous finirons bien par en sortir.
Et les jours passent. Je suis habitué depuis si longtemps à vivre coupé du reste de l'humanité. Comme je ne peux pas quitter ma tanière, je me résigne à écouter les conversations dans le couloir, l'oreille collée à la porte. Et j'entends que les combats font rage dans le centre, et que les résistants ne reçoivent pas de soutien de l'extérieur. J'entends que les nazis intensifient les représailles, que les miliciens ukrainiens ont laissé les occupants d'un immeuble en feu brûler jusqu'au dernier. Et puis un jour, l'oreille collée à la porte, je sens l'anxiété collective monter d'un cran dans l'immeuble. Je finis par comprendre que les Allemands ont encerclé notre bâtiment et qu'ils vont le détruire au canon. Je vois, par la fenêtre, des soldats qui courent dans tous les sens avec des bidons à la main. Et bientôt, je sens une fumée noire monter dans l'escalier. Et je vois des SS se jeter dans l'immeuble, je les entends gravir les étages. Alors je sors sur le palier, j'agrippe l'échelle qui mène au grenier, je la tire, je referme la trappe.
Allez, c'est bon, hein? Il n'y a plus personne. On se tire.
Je retourne dans mon studio. L'immeuble est en train de brûler. C'est donc comme ça que je vais mourir. Je n'ai jamais pensé que je finirais brûlé vif. Je n'ai plus qu'un moyen. M'échapper. J'ai des barbituriques. Je les verse dans ma bouche. Je les avale et je sombre dans l'inconscience. Mais les barbituriques étaient moins puissants que je ne l'imaginais. Je me réveille vivant. Je me traîne jusqu'à la porte. La poignée est brûlante. L'étage en dessous a été ravagé par les flammes. Je gagne la rue par la sortie de service. Elle est jonchée de cadavres. Alors je me couche à plat ventre et je commence à ramper en direction de l'hôpital en me disant « Là-bas, je trouverai une nouvelle cachette. » Et quand les Allemands passent, je fais le mort. Ça dure des heures. Quand j'arrive à l'hôpital, j'ouvre une porte au hasard. Je me recroqueville dans un coin. Je m'endors. Je suis resté caché, comme ça, seul, changeant de cachette presque tous les jours, pendant des semaines et des semaines, sans rien manger, à boire de l'eau croupie, dans une solitude extrême, unique, seul, dans un immeuble abandonné, dans un quartier déserté, au milieu d'une ville. Septembre est passé comme ça. Et puis, octobre, j'ai passé tous ces jours allongé, à manger une biscotte avec une tasse d'eau et à relire dans ma tête toutes les partitions de piano que j'avais jouées dans ma vie, à me souvenir des livres que j'avais vus. Et puis un jour, j'étais parti à la recherche de nourriture dans les ruines.
Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici ?
Un officier allemand, les bras croisés, en face de moi.
Faites ce que vous voulez de moi. Je bougerai pas. Allez-y. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. Eh bien, quel est votre métier, jeune homme?
Je suis pianiste.
Ah ah! Alors vous voulez bien venir avec moi?
Il m'emmène dans une pièce et il me montre un piano.
Jouez! Jouez quelque chose!
Quand je pose mes doigts sur le clavier, il tremble. 2 ans et demi que je n'ai pas joué. Quand j'ai fini, j'ose lui demander.
Vous êtes allemand ? Oui. Oui, je suis allemand. Et honteux de l'être, hein, après tout ce qui s'est passé.
Il me suggère d'aller me cacher dans le grenier. Et il revient 3 jours plus tard.
Vous êtes là ? Je suis là, oui. L'armée soviétique est de l'autre côté de la Vistule. Ils sont pratiquement à Varsovie. La guerre ne durera plus longtemps, maintenant. Il faut que vous teniez le coup, monsieur. Vous devez tenir le coup. Vous m'entendez ?
Il s'en va. Et il revient le 12 décembre, me porter du pain et un édredon bien chaud.
Je vais quitter Varsovie. L'offensive des Soviétiques est très proche, vous savez.
Ça veut dire qu'il y aura des combats de rue ? S'il y a des combats de rue, je pourrais pas en réchapper.
Écoutez bien. Si on a survécu à cet enfer depuis 5 ans, vous et moi, c'est que Dieu veut que nous restions en vie, non ? C'est ce qu'il faut croire. Adieu, monsieur.
Attendez. Attendez, je vous ai pas dit mon nom. S'il vous arrive quoi que ce soit, si je peux vous aider, retenez mon nom. Je m'appelle Spielmann, de Radio Pologne.
Noël est venu. Et puis le nouvel an 1945, mon 6e nouvel an depuis le début de la guerre. Le pire, le 14 janvier, l'artillerie soviétique commence à bombarder. Mais les nazis se sont retirés, sans se battre.
Les Allemands ont été vaincus. Varsovie est libérée. Je répète, les Allemands ont été vaincus. Varsovie est libérée.
J'ai dévalé tout de suite l'escalier. Et je suis tombé sur une femme soldat. Elle m'a pris pour un Allemand.
Je suis polonais. Je suis polonais, tirez pas.
Après 2 semaines de repos, j'ai pu retrouver les rues de Varsovie en homme libre. Demain commence une nouvelle vie. Mais comment est-ce que je vais y arriver ? Il n'y a que de la mort derrière moi. Quelle énergie vitale je vais pouvoir tirer de cette destruction ?
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.